Chapitre 8. Quand Callan se réveilla serré contre Richard, de la lumière filtrait sous la porte. Elle s'assit, se frotta les yeux et regarda son compagnon. Allongé sur le dos, il respirait lentement en contemplant le plafond. La jeune femme sourit, émue par le plaisir de voir son visage familier. Il était tellement beau qu'elle en avait le cœur serré. Soudain, avec un sursaut, elle comprit qui lui rappelait ce visage si agréable à regarder. Richard ressemblait à Darkenral. Sans son impossible perfection, ses traits dépourvus de défauts qui semblaient appartenir à une statue plutôt qu'à un être humain, comme s'il s'agissait d'une version plus dure et irrégulière de leur adversaire mort. Plus réel en somme. Avant qu'ils aient vaincu Ral, quand la voyante Chota était apparue à Richard sous les traits de sa mère, Callan s'était aperçu que le sourcier avait reçu en héritage la bouche et le nez de la défunte, comme s'il portait le visage de Darkenral, mais adouci par le legs maternel. Le maître avait de longs cheveux blonds très fins. Ceux de Richard étaient plus épais et bien plus sombres, et si ses yeux étaient gris et non pas bleus, le regard des deux hommes avait la même intensité. Un regard capable d'hypnotiser et qui semblait pouvoir couper de l'acier. Bien qu'elle ignorât comment c'était possible, Callan comprit que le sang de Ral coulait dans les veines de Richard. Pourtant, l'un était de Dara et l'autre de Terre d'Ouest. Deux régions très éloignées. Le lien, conclut-elle, devait remonter à un lointain passé. Richard fixait toujours le plafond. Elle lui posa une main sur l'épaule et la serra doucement. « Comment va ta tête ?» Le sourcier sursauta, regarda autour de lui, puis se frotta les yeux. « Hein ? Je dormais. Qu'as-tu dit ?»« Non, tu ne dormais pas. »«
Bien sûr que si, comme une masse. »
« Tu avais les yeux ouverts ?» dit Callan, prise d'une vague inquiétude. Elle n'ajouta pas que seuls les sorciers, à sa connaissance, dormaient parfois sans baisser les paupières.
« Vraiment ? Dis-moi, où est le sac de feuilles ?»«
À côté de toi. Ça fait toujours très mal ?»«
Ouais, mais j'ai connu pire. »
Il s'assit, prit quelques feuilles, les fourra dans sa bouche et se passa une main dans les cheveux.
« Au moins je peux parler. »
Il sourit à Callan. Et te sourire sans avoir le sentiment que ma tête va exploser. Si tu te sens mal, tu ne devrais pas aller tirer à l'arc aujourd'hui.
Savidlin a dit que je ne pouvais pas reculer, et je ne veux pas le laisser tomber. En plus, j'ai envie de voir l'arc qu'il a fabriqué. Je ne me rappelle plus quand j'ai décoché ma dernière flèche.
Après qu'il eut passé quelques minutes à mâcher des feuilles, ils plièrent les couvertures et se mirent en quête de Savidlin. Ils le trouvèrent chez lui, où Sidin lui décrivait son voyage à dos de femelle dragon. L'homme d'Adobe adorait les histoires. Même quand un enfant les racontait, il écoutait avec une attention soutenue, comme si un adulte de retour de la chasse lui détaillait sa journée. Callan nota avec fierté que le récit du petit garçon était d'une précision frappante, sans enjolivure superflue. Sidin demanda s'il pourrait avoir un dragon comme animal de compagnie.
Son père lui répondit qu'Écarlate n'était pas un jouet, mais une amie de leur peuple. En revanche, s'il dégotait un poulet rouge, il pourrait le garder.
Weslan préparait une bouillie de flocons d'avoine aux œufs. Elle invita les deux jeunes gens à partager ce petit déjeuner et leur tendit des bols fumants quand ils se furent assis en tailleur sur le sol. En guise de cuillère, ils utilisèrent un morceau de pain de Tava plié. Richard pria Callan de demander à Savidlin s'il avait un outil capable de percer un trou. L'homme d'Adobe tendit une main et tira de sous un banc une fine tige de métal. Il la donna au jeune homme qui sortit son croc de dragon. L'air perplexe, il étudia la tige, la posa à la base du croc et la fit tourner prudemment.
« Tu veux percer un trou dans le croc ?» demanda Savidlin en riant. « Donne-moi ça, je vais te montrer comment faire. »
L'ancien utilisa la pointe de son couteau pour amorcer le trou. Puis tendit les jambes et coinça le croc entre ses pieds. Laissant tomber quelques grains de sable dans la petite encoche, il y positionna ensuite la tige. Après avoir craché dans ses mains, il la fit tourner entre ses paumes en lui imprimant également un mouvement d'avant en arrière. De temps en temps, Il s'arrêtait pour rajouter du sable ou essuyer la salive tombée autour du trou. En quelques minutes, il eut traversé le croc. Après avoir lissé avec son couteau l'orifice de sortie, il étudia fièrement son travail, puis rendit son bien à Richard qui le remercia de bon cœur. Le sourcier passa dans le trou une lanière de cuir et pendit le nouveau talisman à son cou avec le sifflet de l'homme-oiseau et la gielle de la mort de Sith.
« Une vraie collection ambulante, » pensa Callan,
« et dont elle n'aimait pas toutes les pièces.
« Ta tête va mieux ?»
demanda Savigleen en saussant son bol avec un morceau de tabac.
« Un peu, mais je souffre encore. Les feuilles de nicelle me soulagent. Au fait, je suis gêné que vous ayez dû me porter hier soir. »«
Un jour, j'ai été salement blessé, »
dit Savigleen en désignant une petite cicatrice ronde sur son flanc.
« Et des femmes m'ont ramené chez moi. »
Il se pencha en avant et fronça les sourcils.
« Porté par des femmes !»
Wesleyan le foudroya du regard, mais il fit mine de ne pas s'en apercevoir.
« Quand mes hommes ont su ça, ils se sont tenus les côtes un bon moment. Mais quand je leur ai dit « quelle femme avait secouru !» ils ont voulu savoir comment j'avais été blessé, histoire d'avoir droit au même traitement.
« Et comment as-tu été blessé ?» demanda Richard.
« Comme je l'ai dit à mes hommes... « Rien de plus simple. Il suffit de rester planté là comme un lapin pendant qu'un intrus vous enfonce sa lance dans le corps. »«
Et pourquoi ne t'a-t-il pas achevé ?»«
Parce que je lui ai tiré une flèche 10 pas dans la gorge. »«
Une flèche 10 pas ?»
Savidlin sortit de son carquois posé près de lui, une flèche barbelée à la pointe très fine.
« Une de celles-là. » « Tu vois la substance noire sur la pointe. C'est du poison. On l'appelle 10 pas. Quand un homme est touché, il fait encore 10 pas, puis tomberait de mort. »
Il éclata de rire.
« Mes gars ont décidé de trouver un autre moyen d'attirer l'attention de ces beautés. »
Wesleyan se pencha et fourra un morceau de tabac dans la bouche de son mari.
« Les hommes adorent raconter des histoires affreuses. »
dit-elle à Callan.
« Mais je me suis rongé les sangs jusqu'à ce qu'il soit remis. Mon inquiétude a disparu la nuit où il m'a fait sidine. Ah là, j'ai compris que tout allait bien. »
Callan s'aperçut qu'elle avait traduit sans vraiment enregistrer le sens de ses paroles. Sentant ses oreilles chauffées, elle évita de regarder Richard et se concentra sur ses flocons d'avoine. Pour une fois, elle se félicita que ses cheveux cachent si bien ses lobes.
« Tu découvriras vite que les femmes, elles aussi, aiment raconter des histoires !»
fit Savidlin en lançant à Richard un regard de mâle outragé. Callan chercha en vain un moyen d'orienter la conversation sur un autre thème. Par bonheur, Savidlin s'en chargea pour elle.
« Il sera bientôt l'heure de partir. »«
Comment le sais-tu ? » demanda Richard.
« Je suis là, tu es là, et certains de mes hommes sont là. » Quand ils seront tous arrivés, l'heure du départ aura sonné.
Savidlin se leva et alla prendre dans un coin de la pièce un arc beaucoup plus grand que celui qu'il utilisait. La taille idéale pour Richard. Cédant d'un pied, il banda adroitement l'arme. Tout sourire, le sourcier déclara que c'était le plus bel arc qu'il ait jamais vu. Savidlin rayonna de fierté et lui tendit un carquois plein de flèches. Richard arma l'arc, testant la résistance de la corde.
« Comment as-tu réussi ça ? »
s'étonna-t-il.
« Le réglage est parfait pour moi. »«
J'ai pensé à la force avec laquelle tu m'as témoigné ton respect lors de notre première rencontre. La tension de la corde est trop élevée pour moi, mais je l'ai jugée idéale pour toi. »«
Tu es sûr de vouloir partir ?»
demanda Callan.
« Comment va ta tête ?»«
Un enfer. Mais avec les feuilles, ça devrait s'arranger. »
Savidlin attend impatiemment la compétition et je ne voudrais pas le décevoir.
« Tu veux que je vienne avec toi ?» demanda l'inquisitrice.
« Non, »
répondit Richard en lui posant un baiser sur le front.
« Je n'aurais pas besoin d'une traductrice pour comprendre qu'on m'a battu à plate couture, et il est inutile de donner à Shandalen une occasion de m'humilier encore plus. »
« Zed m'a dit que tu étais très bon au tir, plus que bon même. »
Richard jeta un coup d'œil à Savidlin, occupé à bander son propre arc. Je n'ai pas tiré depuis une éternité. Zed s'amusait à brouiller les cartes, comme d'habitude.
Il embrassa sa compagne au moment où Savidline en terminait avec son arc, puis sortit avec lui. Le goût de ses lèvres sur les siennes, Kalan les regarda s'éloigner.
Impassible, Shandalen leva les yeux de la flèche qu'il examinait et attendit que Savidline et Richard le rejoignent. Prindin et Tosidine, très souriants, sautaient d'un pied sur l'autre tant ils étaient impatients que le concours commence. Le sourcier croisa le regard des hommes massés là qui lui emboîtèrent prestement le pas. Il les dépassait tous d'une bonne tête. On eût dit un groupe d'enfants marchant sur les talons d'un adulte, mais ces enfants-là jouaient avec des flèches empoisonnées et certains ne portaient pas le sourcier dans leur cœur. Décidément, Kalan n'aimait pas cette histoire.
« Savidline m'a promis qu'il veillerait sur Richard, » dit Weslan. « Ne t'inquiète pas, Shandalen ne fera rien de stupide. »«
Peut-être, mais je me demande quelle est sa définition de ce mot. »
Weslan s'essuya les mains avec un chiffon et regarda Sidine du coin de l'œil.
Le petit garçon boudait parce qu'elle lui avait interdit d'aller jouer dehors. Elle approcha et le couva un long moment du regard. Quand il releva la tête, elle lui flanqua avec son chiffon un petit coup plein de tendresse.
« Va donc t'amuser !»
dit-elle. Sidine partit en trombe et sa mère soupira.
« Les petits ignorent combien la vie est précieuse et fragile. »
« C'est pour ça que nous voudrions tous redevenir des enfants. »«
Peut-être. »
Les yeux de Weslan pétillèrent soudain.
« Quelle couleur veux-tu porter pour ton mariage ?»«
Eh bien... »
Kalan réfléchit puis sourit.
« Richard adore le bleu. »«
J'ai exactement ce qu'il te faut, un tissu que je gardais pour un événement spécial. »
Weslan alla dans la chambre et en revint avec un paquet. S'asseyant sur un banc près de Kalan, elle entreprit de le déballer. Le tissu, superbe, était d'un bleu soutenu avec de petites fleurs imprimées d'un ton plus clair. Le caressant entre le pouce et l'index, Kalan pensa qu'il ferait une magnifique robe.
« Quelle splendeur !» dit-elle. « Comment l'as-tu eue ?»«
Du troc !»
répondit Weslan.
« Avec des gens venus du Nord. Ils aimaient les coupes que je fabrique, alors nous avons fait un échange. »
Consciente du prix de ce tissu, Kalan se demanda combien de coupes la femme d'Adobe avait dû leur céder.
« Il serait injuste que je le porte, mon ami. Tu as travaillé dur pour l'avoir, il t'appartient. »
Weslan étudia le tissu bleu et hocha la tête, ravi.
« Absurde ! Richard et toi avez fait tellement pour nous. D'abord, nous avons appris à construire des toits qui ne fuient pas, puis vous avez sauvé Sidine des ombres en nous débarrassant au passage d'un vieux fou dont Savidline a pu prendre la place. Mon époux n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et quand notre fils a été enlevé, vous nous l'avez ramené. Pour finir, vous avez vaincu l'homme qui voulait nous réduire en esclavage. Vous êtes les protecteurs de notre peuple, à côté de cela que vaut un morceau de tissu. Je serais fier que la mère inquisitrice, maîtresse des contrées du milieu, se marie dans une robe que j'ai confectionnée. « Moi, une simple femme d'Adobe, pour quelqu'un, mon ami, qui a visé des endroits merveilleux que je ne peux même pas imaginer. Kalan, en acceptant, tu ne me prendras rien. C'est toi qui m'offriras quelque chose. »«
Tu n'as pas idée du bonheur que tu me fais, » dit Kalan ému aux larmes. « Le destin d'une inquisitrice est d'être redoutée. » Depuis toujours, les gens me fuient comme la peste. Personne ne m'a jamais traité comme un être humain normal. Avant Richard, personne ne s'est avisé que j'en étais un. Et avant toi, aucune femme ne m'avait accueilli chez elle, et encore moins laissé serrer son fils dans mes bras.
Elle essuya ses larmes. Ce sera la plus belle robe que j'ai jamais portée, et la plus précieuse parce qu'une amie me l'aura fabriquée.
« Quand le sourcier te verra dedans, »
dit Weslan avec un regard coquin,
« il te fera tout de suite un fils ou une fille. »
Riant et pleurant à la fois, Kalan serra la femme d'Adobe dans ses bras. Jamais elle n'avait rêvé qu'une chose pareille lui arrive, être traitée comme une femme, pas comme une inquisitrice. Aussi excitées l'une que l'autre, les deux amies passèrent une bonne partie de la matinée à tailler et à coudre. Weslan, avec ses aiguilles en os, n'avait rien à envier aux meilleures couturières d'Aidindril. De facture assez simple, la robe mettrait en valeur la féminité de Kalan. À midi, elles mangèrent du bouillon de poulet et du tava. Weslan annonça qu'elle en avait assez de coudre et demanda à Kalan ce qu'elle voulait faire l'après-midi. « Cuisiner un peu serait un plaisir, » répondit l'inquisitrice. Elle n'acceptait jamais de viande quand elle venait en visite officielle, car elle savait que les hommes d'Adobe, pour s'approprier les vertus de leurs ennemis, consommaient parfois de la chair humaine. Soucieuse de ne pas les offenser, elle se prétendait végétarienne. La veille, Richard avait réagi étrangement face à un plat de viande. La jardinière de légumes que proposa Weslan lui parut donc tout à fait adaptée. Elles débitèrent des racines de tava, d'autres tubercules couleur rouille, inconnus de Kalan, et des poivrons, puis les jetèrent dans le chaudron qui bouillonnait sur le petit feu. Elles ajoutèrent des haricots, des légumes verts, des champignons séchés et de la noix de muscade. En alimentant le feu en bois sec, Weslan informa Kalan que les hommes, selon elle, ne reviendraient pas avant la nuit. En attendant, elle pouvait aller rejoindre les autres femmes dehors et les aider à préparer et à cuire le pain de tava.
« J'aimerais beaucoup ça, » dit l'inquisitrice. « On parlera du mariage, » ajouta Weslan.
« C'est un excellent sujet de conversation, surtout quand il n'y a pas d'homme dans le coin. »
Kalan fut ravie d'apprendre que les villageoises accepteraient de converser avec elle. Lors de ses précédentes visites, elle s'était toujours montrée très réservée. Les plus âgés eurent plaisir à évoquer le futur mariage. Les plus jeunes bombardèrent l'inquisitrice de questions sur les endroits qu'elle avait visités. Était-il vrai que les hommes lui obéissaient au doigt et à l'œil? Elles écarquillèrent les yeux quand Kalan leur parla du conseil et expliqua comment elle protégeait les petits peuples de la convoitise des grands. Bien qu'elle ait du pouvoir, ajouta-t-elle, elle s'en servait uniquement dans l'intérêt général. Et non, elle ne commandait pas des armées, car cela n'entrait pas dans ses attributions. Son objectif, au contraire, était d'encourager la coopération pour qu'il n'y ait plus de guerre. Ses compagnes voulurent savoir combien elle avait de domestiques et quelle robe magnifique elle portait. Cet interrogatoire rendit nerveuses les aînées et tapa un peu sur les nerfs de Kalan. Elle aplatit une boule de pâte sur le plan de travail, faisant volter un nuage de farine. « Ma plus belle robe sera celle que Weslan me prépare, parce que c'est le don d'une amie et pas une commande passée à une couturière. L'amitié est le bien le plus précieux au monde. J'abandonnerai tout ce que j'ai, quitte à porter des haillons et à manger des racines pour avoir une amie. » Cette déclaration calma les jeunes femmes et combla d'aise les plus âgées. La conversation revint sur le mariage, au grand ravissement de l'inquisitrice, qui laissa les femmes d'Adobe mener le bal. Vers la fin de l'après-midi, Kalan entendit un brouhaha de voix dans le lointain. Quelques minutes plus tard, elle aperçut la silhouette de Richard. À grandes enjambées, il se dirigeait vers la maison de Savidlin et de Weslan. Même de loin, elle vit qu'il était furieux. Des chasseurs l'accompagnaient, trottinant parfois pour suivre le rythme. L'inquisitrice essuya avec un chiffon ses mains couvertes de farine. Sortant de l'abri où étaient les fours, elle courut vers les hommes et les rejoignit alors qu'ils descendaient une allée entre deux bâtiments. Se frayant un chemin entre les chasseurs, elle rattrapa Richard au moment où il arrivait devant la porte de la maison. Flanqué de Savidlin, Chandalen le suivait comme son ombre. Du sang avait coulé sur son épaule et un cataplasme de boue séchée reposait entre son cou et sa clavicule. Il semblait d'humeur à casser des cailloux avec les dents. Quand Kalan tira Richard par la manche, il se retourna, l'air enragé, mais s'adoucit un peu en la reconnaissant et éloigna sa main de la garde de l'épée de vérité.
« Que s'est-il passé ?» demanda Kalan.
Le sourcier regarda les autres hommes, dévisagea plus longuement Chandalen, puis posa de nouveau les yeux sur l'inquisitrice.
« J'ai besoin de tes talents de traductrice. Nous avons eu une mésaventure, et je n'ai pas réussi à leur expliquer ce qui est arrivé.
« Je veux savoir pourquoi il a essayé de me tuer !»
cria soudain Chandalen.
« De quoi parle-t-il? Tu as tenté de l'assassiner ?»«
L'assassiner ?
Cet imbécile heureux me doit la vie. Ne me demande pas pourquoi je l'ai sauvé. J'aurais dû le laisser crever. Et la prochaine fois, je le ferai. »
Richard se passa une main dans les cheveux.
« Ma tête me fait un mal de chien !»
Chandalen désigna sa blessure à l'épaule.
Il l'a fait exprès. Ça ne pouvait pas être un accident. Il tire trop bien pour ça.
Triple abruti!
Beugla le sourcier en levant les bras au ciel. Il planta son regard dans celui de l'homme d'Adobe.
Tu m'as vu tirer, non? Crois-tu, si j'avais voulu te tuer, que tu serais encore ici à nous casser les pieds? Bien sûr que je l'ai fait exprès. C'était la seule façon de sauver ta misérable peau.
Il tendit un bras, leva une main devant les yeux de Shandalen et écarta légèrement son pouce et son index.
Voilà la place que j'avais pour tirer. Et encore, si je n'avais pas pris le risque, tu serais mort. Que raconte-t-il?
Demanda l'homme d'Adobe.
Richard, calme-toi,
implora Callan, et dis-moi ce qui est arrivé.
Ces gens ne comprennent pas un mot à ce que je raconte. Je n'ai pas pu m'expliquer. Callan, j'ai tué un homme aujourd'hui.
Quoi? Un chasseur de Shandalen?
Mais non, ce n'est pas ça qui les met en colère. Ils sont contents que j'ai abattu ce type et sauvé Shandalen, mais ils pensent que...
Mets de l'ordre dans tes idées, puis exprime-toi, je traduirai fidèlement.
Richard prit une grande inspiration et se frotta les yeux du dos de la main. Quand il se fut passé les doigts dans les cheveux, sa façon à lui de les peigner, il parut aller un peu mieux.
Shandalen, je ne m'expliquerai qu'une fois. Si ça ne rentre pas dans ton crâne de crétin, nous nous placerons chacun à un bout du village, et nous nous tirons dessus jusqu'à ce qu'un des deux s'écroule. Mais je te préviens, il me suffira d'une flèche pour obtenir ce résultat.
J'écoute,
dit l'homme d'Adobe en croisant ses bras musclés.
Tu étais assez loin de moi dans la plaine. Pour une raison que j'ignore, j'ai senti que cet homme était là derrière toi. Je me suis retourné et tout ce que j'ai vu...
Il prit Callan par le bras, le plaça face à Shandalen et s'accroupit derrière elle.
C'était comme ça. J'apercevais seulement le haut de son crâne. Et son bras levé, une lance prête à s'abattre dans ton dos. J'avais une seule chance de te sauver la vie et une fraction de seconde pour agir, avec pour unique cible le sommet de sa tête. Si j'avais visé trop haut, la flèche aurait rebondi sur son front et il t'aurait tué. La seule façon de l'en empêcher, c'était de passer à travers le gras de ton épaule pour le toucher entre les deux yeux.
Richard écarta de nouveau le pouce et l'index.
C'était ma marge de manœuvre. Si j'avais tiré un peu trop bas, ta clavicule aurait arrêté ou dévié la flèche et c'en était fini de toi. Un poil trop haut pour ne pas te blesser et tu étais également fichu. Je savais que la flèche fabriquée par Savidlin pouvait traverser ta chair et le tuer. Il n'y avait pas d'autre solution, et il fallait intervenir vite. Quelques points de suture sont un prix négligeable pour ta vie.
« Comment savoir que tu dis la vérité ?»
demanda Shandalen, ébranlé. Richard secoua la tête, agacé. Soudain, il eut une idée. Prenant le sac en tissu que tenait un des chasseurs, il en sortit une tête tranchée, la tenant par les cheveux. Callan se plaqua une main sur la bouche et se détourna, mais du coin de l'œil, elle vit la flèche plantée entre les yeux du mort. Richard plaça la tête derrière l'épaule de Shandalen et posa la hampe de la flèche sur son épaule près de la blessure.
Voilà tout ce que je voyais. Si l'homme s'était tenu plus droit en le touchant entre les deux yeux, je n'aurais pas traversé ton épaule.
Les chasseurs murmurèrent entre eux, convaincus par la démonstration. Shandalen regarda la hampe de flèche posée sur son épaule, puis la tête de son agresseur. Après une minute de réflexion, il décroisa les bras, prit le crâne et le remit dans le sac.
« On m'a souvent recousu. Alors, une fois de plus, ne me tueras pas. Je vais te croire, Richard au sang chaud, aujourd'hui. »
Les poings sur les hanches, Richard regarda l'homme d'Adobe et ses chasseurs s'éloigner.
« Ne vous fendez surtout pas d'un merci !»
leur cria-t-il. Kala ne jugea pas utile de traduire cette amabilité.
« Pourquoi ont-ils rapporté cette tête ?» demanda-t-elle. « Je n'en sais rien, et ce n'était pas mon idée, tu peux me croire. À ta place, je ne chercherai pas à savoir ce qu'ils ont fait du reste du corps. Richard, je ne suis pas une experte, mais ce tir était très osé. À quelle distance étais-tu de Shandalen ?
Le risque était minime, et j'étais à une centaine de pas de cet ingrat, au moins.
De si loin, tu peux être précis à ce point ?
J'aurais fait aussi bien à 200 pas, j'en ai peur. Et même à 300.
Il baissa les yeux sur ses mains tachées de sang.
Et il faut que je me nettoie. Callan, ma tête menace d'exploser. Je dois m'asseoir.
Peux-tu faire venir Nissel ? Souffler dans les bronches de cet imbécile m'a permis de tenir debout, mais ça ne durera plus longtemps. Entre dans la maison, je cours chercher la guérisseuse.
Je crois que Savidlin aussi m'en veut. Dis-lui que je suis navré d'avoir bousillé ses flèches. »
L'inquisitrice, l'air perplexe, regarda le jeune homme entrer et refermer la porte. Savidlin fit mine de parler, mais elle le prit par le bras.
« Richard a besoin de Nissel. Accompagne-moi et raconte-moi ce qui s'est passé. »
« Richard au sang chaud porte bien son nom, mon ami.
Il est troublé parce qu'il a tué un homme. Vivre avec ça n'est pas facile. »
« Il ne t'a pas raconté toute l'histoire, mère inquisitrice. »
« Je t'écoute. »
« Nous tirions flèche sur flèche. Chandalen était furieux à cause des exploits de Richard. N'y tenant plus, il a marmonné que ce fichu sourcier était un démon, puis s'est éloigné de nous. Personne d'autre n'a bougé, craignant de manquer la démonstration de Richard. Une précision formidable. Soudain, il a encoché une flèche, s'est tourné vers Chandalen et lui a tiré dessus. Les bras croisés, le chef des chasseurs n'avait pas d'armes sur lui. Nous n'en avons pas cru nos yeux. Comment le sourcier pouvait-il commettre une telle vilenie ? Pendant que la flèche volait vers Chandalen, deux de ses chasseurs ont armé leurs arcs et tiré. Le premier a décoché une flèche 10 pas sur Richard, avant même que la sienne ait atteint Chandalen.
Cet homme a raté Richard ? Ces chasseurs-là ne manquent jamais leur cible.
Ils ne seraient pas passés à côté. Mais Richard s'est retourné. Il a tiré de son carquois sa dernière flèche, l'a encochée et a tiré. Je n'ai jamais vu quelqu'un réagir si vite.
Savidlin hésita, comme s'il redoutait que Callan ne le croie pas.
La flèche à tête métallique de Richard a touché l'autre en plein vol et l'a fendue en deux. Les deux moitiés sont passées à un souffle de son visage.
Richard a fait ça ? Toucher une flèche en plein vol ?
Oui, et ce n'est pas tout. L'autre chasseur a tiré, et le sourcier n'avait plus de flèche. Son arc dans une main, il a attendu que la 10 pas soit presque sur lui.
Savidlin baissa la voix, comme s'il voulait que personne d'autre n'entende.
Puis, il l'a intercepté au vol, comme on attrape une mouche, la hampe entre ses doigts. Ensuite, il l'a encoché dans son arc et l'a pointé sur les hommes de Chandalen en beuglant à tue-tête des mots que nous n'avons pas compris. Mais les chasseurs ont jeté leurs arcs et écarté les bras pour montrer qu'ils n'avaient pas d'autres armes. Nous pensions tous que Richard au sang chaud était devenu fou et qu'il allait faire un massacre. Franchement, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Puis, Prindy nous a appelés, car il avait découvert le mort derrière Chandalen. Nous avons vu que Richard avait tué un intrus armé d'une lance. À l'évidence, il n'avait jamais visé Chandalen. Tout le monde était d'accord là-dessus, sauf le principal intéressé, qui saignait comme un porc. Il a rugi de colère quand ses chasseurs sont allés féliciter le sourcier.
Callan resta un moment bouche bée, ne parvenant pas à croire un mot de cette histoire.
« Richard m'a dit qu'il était désolé d'avoir bousillé tes flèches. De quoi parlait-il ?»«
Tu sais ce qu'est un tir sur la hampe ?»«
C'est une flèche qui en touche une autre, déjà plantée au centre de la cible, et la fend en deux. Les hommes de la garde nationale en Aïdindril recevaient un ruban chaque fois qu'ils réussissaient ce coup. Quelques soldats en portaient une demi-douzaine, un archer en détenait 10. »
Savidlin sortit de son carquois une énorme brassée de flèches toutes fendues en deux.
« Il serait plus économique de donner un ruban à Richard quand il rate son coup. Aujourd'hui, ça n'est pas arrivé une seule fois. Il a bousillé, comme il dit, plus d'une centaine de flèches. Ces projectiles sont difficiles à fabriquer et nous détestons les gaspiller. Mais nous insistions pour qu'il continue, parce que nous n'avions jamais vu ça. » Il a réussi à placer 6 flèches sur une des miennes, les unes s'enfonçant dans les autres. À un moment, nous avons tué des lapins pour les faire rôtir. Richard s'est assis avec nous pour le repas, mais il n'a rien pu avaler. Très pâle, il est allé continuer à s'entraîner pendant que nous finissions. Il a tué l'intrus peu après.
« Pressons le pas, » dit Callan. « Il a vraiment besoin de Nissel. Et Savidlin ? Pourquoi avoir coupé la tête de l'agresseur, une telle cruauté ?
As-tu remarqué que les yeux du mort sont entourés de peinture noire? C'était pour que nos esprits ne le voient pas, afin qu'ils puissent nous attaquer par surprise. Quelqu'un qui vient chez nous ainsi n'a qu'une raison, tuer. Le long de nos frontières, Chandalen plante sur des poteaux les têtes de ses maraudeurs pour décourager ceux qui voudraient les imiter. Tu peux trouver ça cruel ou barbare, pourtant ça évite des tueries. Ne méprise pas les hommes de Chandalen parce qu'ils ont décapité le cadavre. Ça ne les amuse pas, mais ils savent que des vies seront sauvées.
Comme Chandalen, dit Kalan soudain honteuse, je suis coupable d'avoir porté un jugement trop hâtif. Ancien Savidlin, pardonne-moi d'avoir pensé sur ton, notre peuple, des choses injustes.
Touché, l'homme d'Adobe entoura d'un bras les épaules de l'inquisitrice et la serra contre lui. Quand ils revinrent avec la guérisseuse, ils trouvaient Richard recroquevillé dans un coin, les mains plaquées sur la tête. De nouveau, sa peau était glaciale et couverte d'une sueur froide. Nicelle lui fit boire une potion, puis lui donna un curieux petit cube à mâcher. Comme Richard souriait en le voyant, Kalan supposa qu'il savait ce que c'était. La guérisseuse s'assit près de lui et lui prit le pouls un long moment. Quand il eut de nouveau des couleurs, elle lui fit renverser la tête en arrière, lui ouvrit la bouche et lui passa sur les lèvres une sorte de gousse d'ail qu'elle pressa pour en faire sortir le jus. Lorsque le sourcier fit la grimace, Nicelle sourit.
« Je crois que ça va l'aider, » annonça-t-elle à Kalan. « Dites-lui de continuer à mâcher des feuilles et rappelez-moi s'il va plus mal. »«
Nicelle, ne guérira-t-il pas? Est-ce impossible ?»
Les voix de l'esprit sont impénétrables. Il n'écoute pas toujours, surtout quand il ne veut pas entendre.
Devant l'air ravagé de Kalan, la guérisseuse modéra ses propos.
Mais n'ayez crainte, mon enfant, je pourrais le forcer à écouter.
L'inquisitrice eut un pâle sourire. Nicelle lui tapa l'épaule avant de s'en aller.
Kalan, souffla Richard.
« As-tu dit à Savidlin que j'étais navré pour ses flèches ?»«
Il se désole toujours d'avoir cassé de bons projectiles. »«
Je suis le seul à blâmer, » déclara Savidlin. « L'arc que je lui ai fabriqué est trop bon. Weslan est occupé à faire du pain et je dois aller lui parler. Que le sourcier se repose bien, nous reviendrons pour le dîner. Je sens que ma femme s'est surpassée ce soir. »
Après le départ de l'homme d'Adobe, Kalan s'assit près de Richard.
Qu'est-il arrivé aujourd'hui?
Savidlin m'a raconté tes exploits. Tu n'es pas toujours aussi bon, n'est-ce pas?
Non. J'ai souvent fendu des flèches, mais pas plus d'une demi-douzaine par séance.
Et tu en as déjà tiré autant qu'aujourd'hui?
Les bons jours, oui, quand je sentais la cible. Mais cette compétition, c'était très différent.
En quoi?
Eh bien, nous sommes allés dans la plaine et ma tête me faisait de plus en plus mal. Quand les hommes ont disposé des cibles sur des ballots de paille, j'ai cru que je ne ferais pas mouche une seule fois tellement je souffrais. Pour ne pas décevoir Savidlin, j'ai essayé quand même. Et quand j'ai tiré, j'ai pu appeler la cible.
Que veux-tu dire par là?
Si je le savais. Je croyais que tous les archers faisaient ça, mais Zed m'a expliqué que ce n'était pas le cas. Je vois la cible et je l'attire vers moi. Quand tout va bien, le reste disparaît. Il n'y a plus que moi et l'objet que je veux toucher, comme s'il s'approchait. Parfois, je sens comment la flèche doit être positionnée pour faire mouche à tout coup. Avant même de relâcher la corde, je devine où elle ira. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas manquer mon coup dans cet état, j'ai cessé de tirer. Je me contentais de viser et de me plonger dans cette étrange transe. Puisque j'étais certain de réussir, pourquoi lâcher la flèche? Avec le temps, j'ai réussi à maîtriser le phénomène, enfin, de plus en plus souvent.
Qu'y avait-il de différent aujourd'hui?
Comme je te l'ai dit, ma tête me torturait. Les chasseurs ont tiré avant moi et ils ont fait des prouesses. Quand Savidlin m'a tapé sur l'épaule, j'ai compris que c'était mon tour. J'avais si mal que j'ai cru courir à la catastrophe. Mais j'ai quand même armé l'arc et appelé la cible.
Richard se passa une main dans les cheveux.
J'ignore comment expliquer ça. Dès que j'ai appelé la cible,
Ma migraine a disparu. Plus de douleur. Et j'ai senti mon tir comme jamais. On aurait juré qu'il y avait dans l'air un conduit où il me suffisait de glisser ma flèche. Ça n'avait jamais été aussi fort. La cible me paraissait immense et j'aurais dû faire un effort pour la rater. Après un moment, pour changer un peu, au lieu de fendre les autres flèches, je me suis amusé à couper les plumes de leur empennage. Les chasseurs ont pensé que j'avais raté mes coups, mais ils ont vite compris que j'essayais quelque chose de plus difficile. Et ta migraine avait complètement disparu ?
Oui.
Tu sais pourquoi ?
J'ai peur que oui,
répondit le sourcier sans regarder sa compagne.
À cause de la magie.
La magie ? Que veux-tu dire ?
Kalan, j'ignore si tu sens la magie en toi, mais moi, je sens la mienne. Chaque fois que je dégaine l'épée de vérité, le pouvoir coule en moi comme un torrent et devient une partie de mon être. Comprends-moi. Je connais les manifestations de la magie. Je les ai souvent expérimentées de différentes manières selon les situations et ce que je voulais faire. Comme je suis lié à l'épée, je sens son pouvoir, même quand elle est au fourreau sur ma hanche. À présent, je peux invoquer sa magie sans avoir besoin de dégainer l'arme. Je la sens en permanence, comme un chien accroupi à mes pieds et prêt à sauter si je le lui ordonne. Aujourd'hui, quand j'ai armé l'arc et appelé la cible, j'ai invoqué autre chose, la magie. Lorsque Zed m'a guéri et quand tu m'as touché alors que le Kundar coulait en moi, j'ai senti votre pouvoir. Dans la plaine, j'en ai invoqué un. Il est différent de celui de Zed et du tien, mais de la même nature. Quelque chose de vivant qui respirait en moi. Il se tapota la poitrine. Je l'ai senti naître et se développer, puis je l'ai libéré au moment où j'allais tirer.
Ça a peut-être un rapport avec l'épée, avança Kalan, frappé par cette description qui correspondait si bien à ses propres expériences.
Qui peut le dire? C'est possible. Mais je ne contrôle pas ce pouvoir. Au bout d'un moment, il a disparu, telle une flamme de chandelle soufflée par le vent. Alors je me suis retrouvé dans l'obscurité, comme si j'étais devenu aveugle, et la migraine est revenue. Incapable d'appeler la cible, j'ai laissé les autres tirer. La magie m'investissait et m'abandonnait à sa guise, et pas moyen de prévoir ses caprices. Quand les chasseurs ont mangé, j'ai dû m'éloigner parce que la vue de la viande me rendait malade, et pendant que je m'entraînais seul, le pouvoir revenait parfois, me débarrassant de la douleur.
Et quand tu as intercepté une flèche en plein vol ?
Savidline, t'as tout raconté ?
Ouais, je m'en doutais.
C'était le plus étrange de tout.
Comme si j'avais rendu l'air plus épais.
Plus épais ?
Répéta Kalan, perplexe.
Je devais ralentir la flèche, et j'ai pensé que l'air devait lui opposer une résistance, comme quand j'essaie de frapper avec l'épée de vérité et que le coup s'arrête avant d'avoir touché sa cible. Si je ne réussissais pas à épaissir l'air, me suis-je dit, la mort m'attendait. Tout est venu en même temps dans mon esprit. L'idée et sa mise en œuvre, simultanément. Sans savoir ce que je faisais, j'ai pensé à ça et vu ma main saisir la flèche en plein vol.
Détournant la tête, Richard se tut et Kalan ne sut que dire, une sourde angoisse montant en elle.
« Richard, je t'aime !»
murmura-t-elle enfin.
« Moi aussi !»
répondit le sourcier après un long silence. Il la regarda de nouveau.
« Et j'ai peur. »«
De quoi ?»«
Quelque chose cloche. Un grinceur nous attaque, j'ai une atroce migraine, tu foudroies des monstres à distance et je fends des flèches par dizaines. »
Il faut que j'aille voir Zed en Aïdindril. Tout ça a un rapport avec la magie.
Estimant qu'il n'avait peut-être pas tort, Kalan chercha pourtant d'autres explications.
Les éclairs sont une manifestation de ma magie. Même si j'ignore comment j'ai fait ça, c'était pour te protéger. Le grinceur venait du royaume des morts, et ça n'a aucun rapport avec nous. C'est un monstre maléfique, voilà tout. Quant à ton expérience, elle est sans doute liée à la magie de l'épée. Enfin, c'est une possibilité.
Et les migraines ?
Je n'ai pas d'explication. Kalan, ces maux de tête risquent de me tuer. Ne me demande pas comment je le sais, mais j'en suis sûr. Ce ne sont pas des migraines ordinaires. Ce mal me détruira.
Richard, ne dis pas ça, tu m'angoisses.
Ça m'angoisse aussi. Si Shandalen m'a tant énervé, c'est parce que j'ai peur qu'il ait raison. J'attire peut-être le malheur sur les autres.
Nous devrions rejoindre Zed au plus vite.
Avec mes maux de tête. La plupart du temps, je ne tiens pas debout. Tu me vois m'arrêter tous les 10 pas pour tirer une flèche.
Nicelle trouvera peut-être un traitement.
Non, elle me soulage un peu, mais ce sera temporaire. Bientôt, elle ne pourra plus rien pour moi. Et j'ai peur de mourir.
Kalan éclata en sanglots. Richard s'adossa au mur, la tira par l'épaule et la serra contre lui. Il voulut parler, mais elle lui posa un index sur les lèvres, s'accrocha à sa chemise et laissa libre cours à son chagrin. Son univers s'écroulait autour d'elle et l'avenir n'existait plus. Soudain, elle eut honte de son égoïsme. C'était Richard qui souffrait et qui avait peur, lui qui avait besoin de réconfort.
Richard Cypher, si tu crois que tout ça te permettra de ne pas m'épouser, tu te trompes.
Kalan, je jure.
L'inquisitrice sourit et lui caressa la joue.
Je sais. Richard, nous avons résolu des problèmes bien plus compliqués que celui-là. Nous trouverons la solution, c'est promis. Il le faut bien. Weslan a déjà commencé ma robe.
Vraiment ?
Fit Richard en se fourrant quelques feuilles dans la bouche. Je parie que tu seras superbe dedans.
Pour le savoir, il faudra m'épouser.
À vos ordres, madame. Savidlin, Weslan et Sidine revinrent quelques minutes plus tard. Revigoré par les feuilles, Richard annonça qu'il se sentait un peu mieux. Sidine était tout excité. Devenue une célébrité locale après sa chevauchée à dos de dragon, il avait passé son après-midi à raconter ses aventures à ses amis. À présent, il désirait sauter sur les genoux de Kalan et lui décrire par le menu sa journée de gloire. Elle l'écouta gentiment pendant qu'il se régalait de la jardinière de légumes. À la fin du repas, Richard refusa le fromage que Savidlin lui offrit. Ils avaient terminé quand l'homme-oiseau, flanqué de chasseurs armés, se présenta devant la porte. Tous se levèrent, angoissés par son expression sinistre.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Richard.
« 3 femmes, des étrangères, sont arrivées à cheval. »
« Était-ce une raison suffisante pour s'entourer d'hommes en armes ? » pensa Kalan.
« Que veulent-elles ? » « J'ai eu du mal à comprendre, car elles parlent mal notre langue. Mais je crois qu'elles viennent pour Richard. » Elles veulent le voir et rencontrer aussi ses parents, si j'ai bien compris.
Mes parents, tu es sûr ?
Je crois que c'est ce qu'elles tentaient de dire. Elles ont ajouté que tu devais cesser de fuir. Elles sont là pour toi et il ne faut pas t'échapper. À les en croire, je ne dois pas m'en mêler.
Où sont-elles ?
Demanda Richard, sa main volant vers la garde de son épée.
« Elles attendent dans la maison des esprits. »«
Ont-elles dit qui elles sont ?»
intervint Kalan.
« Elles se sont présentées comme les sœurs de la lumière. »
répondit l'homme-oiseau, ses cheveux gris brillant à la lumière du soleil couchant. Kalan en eut le souffle coupé. Des frissons dans tous les membres, elle eut le sentiment que ses entrailles se nouaient. Pétrifiée, elle ne réussit même pas à battre des paupières.